Bonjour et bienvenue à l'onde curieuse de ce jeudi 16 mai 2024, journée internationale du vivre ensemble en paix. C'était aujourd'hui, mais un peu hier à Aubenas. Je viens ici pour vous présenter l'interview, la rencontre que Marie a faite d'Émilie Valentin, grande créatrice de marionnettes, autrefois au Teil, maintenant ensuite à Montélimar, maintenant peut-être un petit peu en pause. Je sais que c'est une créatrice qui tient beaucoup à cœur à Marie. Tout de suite donc, après mes infos, nos infos locales. En 4 points, 4 jours, ça commence aujourd'hui, jeudi 16 mai. Ça commence donc avec une conférence gesticulée au château de Verchaux, c'est près de Viviers, et c'est à 19h, entrée libre. Toujours aujourd'hui, 16 mai, mais c'est à 18h30, plus exactement de 18h30 à 22h, c'est la cantine populaire ici à Aubenas, une cantine populaire qui ouvrira ses portes à 38 hussards et au Gorge du Tarn, je ne vous en dis pas plus long, c'est à la cantine éphémère, c'est entre 18h30 et 22h, et c'est pour tout public, de préférence à partir de 12 ans. Toujours pour ce jeudi 16 mai, je suis évidemment, comme on pouvait s'y attendre, perdu dans mes notes. C'est un récital décapant, c'est au bistrot Le Jaja. C'est à 22h30, Pierre Moher, donc au bistrot Le Jaja, ce jeudi à 22h30. Deuxième jour, vendredi 17, c'est ça exactement, que je ne me perde pas. Grand jour, c'est la période des festivals, des expositions qui commence au joli mois de mai. On va en avoir pour quelques mois là de haute intensité. Donc vendredi 17, qu'est-ce que j'ai? Tout d'abord, à Faugères, l'association Culture et Animation, à partir de 18h, opérera le vernissage d'une grande exposition de peinture avec pas moins de 7 créateurs. Je ne vais pas tous vous les citer, bien entendu. À 18h, donc, à Faugères, ce vendredi à 18h, donc, vernissage d'une exposition, grande exposition, 7 créateurs. Ces créateurs seront ensuite présents tous les jours de 15h à 18h jusqu'au 20. Vous avez donc la possibilité, et pendant toutes ces journées du 17 au 20, de visiter l'exposition et de rencontrer les créateurs en fin d'après-midi. Ça, c'est à Faugères, Culture et Animation. Pour le vendredi, c'est mon premier point. Deuxième point pour le vendredi, c'est à Jaujac, un concert de soutien à la reconstruction de l'école Mbari Djiba à Tchiok-Essil, en Casamance, naturellement, au Sénégal. Eh bien, vous pouvez donc vous aider à la reconstruction de cette école grâce à un concert de soutien. Vendredi soir à Jaujac, c'est au resto qui est 19 place du Champ de Mars. Vous pouvez pas le rater. On mange à partir de 10€ et pour le concert, c'est participation libre. Toujours vendredi 17 mai, cette fois-ci, on se déplace au Vence à 21h. Un duo de musique d'Italie et de France médiévale avec Magali Imbert et Jean-Loup Deschamps. C'est à 21h au Temple. Les tarifs, c'est entre 12 et 15€. C'est gratuit pour les moins de 18 ans. Donc si vous n'êtes pas responsable, vous ne payez pas. Ça me paraît tout à fait logique. Voilà pour le vendredi. Je crois que c'est tout. Et pour le 18, samedi, on bouge pas, On reste à Faugères. Il faut savoir que le centre culturel du monde s'est déplacé. Il n'est plus à New York, comme certains ballots pourraient le penser, ou à Tokyo. Non, pas du tout. C'est à Faugères que ça se passe, avec un duo acoustique. Ce duo acoustique, c'est Seven Soul. Seven Soul, eh bien, revisite des standards anglo-américains des années 50, 60 et suivantes. À Faugères, donc à 19h, ce duo acoustique, je crois qu'il ne faut pas le rater. Alors, c'est 10€, mais 10€ pour les plus de 16 ans. Il ne faut pas être tout à fait irresponsable pour ne pas payer. Donc, mais il y aura une petite restauration sur place. Donc, allez écouter ce duo Seven Soul à Faugères à 19h le samedi 18. Est-ce que c'est tout pour le samedi 18? À première vue, non. Il me reste au pas de côté à Mercué une soirée festival des gens tout seuls avec trois concerts, Julia Pertuis, Indawa et Batlix. Donc ça commence à 19h30. Les billets sont en pré-vente à 15€, 18€ sur place. Que vous soyez responsable ou pas, c'est le même tarif. 15€ si vous prenez un petit peu à l'avance, 18€ sur place. C'est à Mercué, c'est à 19h30 et c'est samedi 18. S'il vous reste encore un petit peu de force pour le dimanche 19 mai, c'est au Vence et au bar l'Indus, le fleuve, vous savez, qui distingue un petit peu l'Orient et l'Occident, bah, vous le franchissez et juste de l'autre côté, donc vous avez le groupe Splash, petit groove entre amis, entrée libre, irresponsable ou responsable, c'est le même tarif. Zéro. Dimanche 19 mai, donc, c'est à l'Indus, au Vence. Je crois que j'en ai fini. Si j'ai oublié, vous ne m'en voudrez pas. Je regarde rapidement. Bah, si j'ai oublié. Voilà. Voilà. Donc, on revient. Il fallait s'y attendre, hein. C'était à peu près inévitable. On revient au vendredi 17 mai. Et pourquoi j'ai oublié? Parce que du 17 mai au 20 mai, il y a trois expositions de peinture à la chapelle du couvent. Voilà, c'était ça que j'avais omis, plus ou moins confondu avec l'exposition de Faugères vendredi, qui commence vendredi 17 à 18h. Voilà, ce coup-ci, je vous laisse dans les mains de Marie et puis sur les notes d'un morceau de musique traditionnelle du Morvan.
J'accueille aujourd'hui Émilie Valentin de la compagnie Émilie Valentin, le théâtre de marionnettes pour adultes et enfants, installé pendant une décennie au Teil et maintenant retourné à Montélimar. Émilie est conceptrice, réalisatrice, metteur en scène, actrice, muse. Bonjour Émilie.
Et retraitée.
Ah, et retraitée. Bonjour. La marionnette est un art à part et entier. Peut-être pourrions-nous dire théâtre et son double ou théâtre accompagnant, puisque la marionnette ou la poupée n'est parlante que dans la complémentarité et complicité avec l'actrice ou l'acteur qui la manipule. La marionnette fait du théâtre, de la danse, de l'opéra, mais aussi des films, et la compagnie Émilie Valentin en a exploré un vaste rayon. Nous parlerons aujourd'hui avec Émilie d'actualité ardéchoise, mais aussi de l'intemporelle participation d'Émilie et de sa compagnie à l'histoire contemporaine de cet art. Émilie, nous venons d'écouter « La montée des bois de veau », un morceau de musique traditionnelle interprété à la vielle à roue. C'était ton choix. Et pourquoi ?
C'est un morceau que j'essaye de travailler depuis 4 ans et que je n'arrive jamais à jouer aussi bien que l'enregistrement que je vous ai indiqué. J'aime beaucoup les arts secondaires, les arts mineurs, les choses auxquelles les autres ne pensent pas forcément. Donc, dans les instruments de musique, j'aime la vielle à roue, comme j'aime le timbalom ou d'autres instruments moins connus. Et comme j'ai aimé la marionnette pour faire du théâtre, qui n'est pas effectivement ce à quoi on pense en premier.
Oui. Et comment elle t'a accroché, cette marionnette ?
La marionnette, je suis née à Lyon, donc j'ai pas eu de peine. J'ai eu des marionnettes lyonnaises dans les bras. Mon père était menuisier ébéniste et il était le voisin du dernier sculpteur sur bois pour les frères Netzhauser, qui ont été des grands marionnettistes. Et je suis née juste au début de la guerre de 40, donc il y a très longtemps. Et j'ai encore vu du théâtre de marionnettes des frères Netzhauser pendant la guerre avec des officiers allemands dans la salle. Et effectivement, certains officiers allemands s'intéressaient au folklore et à ce qu'ils voyaient en étant, hélas, les meneurs de l'occupation. Mais je me souviens très bien de ma grand-mère, elle me disait « Chut, il y a des officiers allemands, il y a des boches », m'avait-elle dit. Et ça avait beaucoup mis en colère ma mère, qui était institutrice, et qui trouvait que cette appellation culturellement, quand même, n'était pas, je pense, pour l'avenir de l'Europe. Ah. Si je le dis rapidement. Voilà.
D'accord.
Et donc, j'avais 4 ans, là, ça doit être en 44 que j'ai dû voir encore du Guignol, le déménagement de Guignol, joué par les frères Netzhauser. Et plus tard, quand j'avais 6-7 ans, mon père a fait faire des Guignols par ce sculpteur qui était voisin de son atelier. Et c'était un sculpteur, un tourneur à bois, qui, hélas, était très alcoolique et qui n'avait plus de doigts, parce qu'au tour à bois, il se les était fait arracher petit à petit, mais il était d'une habileté phénoménale, alors qu'il n'avait presque plus que des moignons au bout des doigts. Voilà. Mais il faisait de très belles têtes de marionnettes, encore en bois, voilà, en fût de tilleul.
Et ton père en avait demandé pour toi ?
Oui, parce que j'ai eu, je crois, dès l'âge de 6-7 ans, j'ai eu un théâtre de marionnettes que mon père avait fait, le théâtre, très très classique, vous savez, comme des colonnes doriques de chaque côté, et puis des rides rouges. Et c'est bien parce que je pouvais dire des insolences à ma mère, ou écrire des petits textes. Je me souviens d'un texte où je me suis vengée d'une obligation de haricots verts, ça s'appelait les haricots verts du marquis. Enfin, j'ai dû écrire un grand chef-d'œuvre. Et j'attachais ma petite sœur sur sa chaise en face pour ne pas qu'elle aille faire pipi pendant que je jouais, qu'elle me regarde.
Donc, la marionnette,
c'était déjà affreux.
La marionnette servait beaucoup déjà.
Oui, mais la marionnette, tous les enfants, il n'y avait pas de télévision, toutes les familles, beaucoup de familles à Lyon avaient leur théâtre de marionnettes. Les principalement dans les familles bourgeoises, puisque la marionnette, quand même, depuis la fin du 19e et le début du 20e siècle, il y en avait dans toutes les greniers des villas bourgeoises de Lyon. Mais aussi chez des gens comme nous, on offrait un théâtre de marionnettes assez grand et des vraies marionnettes sculptées par des sculpteurs de marionnettes. C'était les mêmes qui faisaient les marionnettes professionnelles, mais ils faisaient aussi des séries pour enfants un peu plus petites, un peu plus légères.
Voilà. C'était quelle manipulation ?
Mais de la marionnette à gaine. Et je les ai revues, je les ai maintenant, ces marionnettes. Et en fait, c'était pendant la guerre, je les ai revues il y a quelques années, quand ma mère m'a fait vider son grenier, où j'ai retrouvé les marionnettes de quand j'étais petite. Et c'est là où j'ai eu une surprise, c'est qu'en fait, en 1945, sans doute pour habiller ces marionnettes, ma mère et ma grand-mère n'ont pas acheté de tissus, les tissus qu'il fallait, si bien qu'en fait, je me suis aperçue que le guignol de mon enfance a une espèce de robe à fleurs sur fond jaune qui a dû être fait dans un vieux tablier pour faire des économies. Mmh. Voilà. Alors j'étais un peu déçue, mais depuis, de toute façon, j'ai appris à faire les vrais guignols, avec la redingote, avec tous les boutons de gilet, de muscadin de l'époque du début du 19e, d'après la Révolution française. Et je sais ce que c'est qu'un vrai costume de guignol. Voilà.
Mmh. Et tu as retrouvé les marionnettes ensuite ?
Eh bien, ensuite, j'ai fait des études pour me conformer à ce qu'on attendait de moi. Je me suis mariée dans le même état d'esprit. J'ai eu des enfants pour faire ce qu'on attendait de moi. À la suite de toutes sortes de circonstances, et surtout du fait que l'éducation nationale avait contrarié mes projets c'est compliqué. J'ai vécu 7 ans en Afrique noire, où je me suis d'ailleurs passionnée pour l'art africain, et où j'enseignais l'espagnol, puisque j'avais fait des études de professeur d'espagnol. Et quand je suis rentrée en France, ils supprimaient les postes d'espagnol et il fallait refaire du français ou de l'histoire-géographie, d'autres choses dans les collèges. Et à ce moment-là, je me suis inscrite pour faire français langue étrangère, puisque j'avais vécu en Afrique. Je me disais, il y a beaucoup d'immigration algérienne, enfin mais maghrébine, et avec ce que j'ai vu en Afrique, notamment l'école sous l'arbre des Cubains au Congo, il me semble que je serais un bon prof de langue étrangère. Mmh. Et puis, de français langue étrangère. Mmh. Et puis, je suis un stage de formation en casant mes enfants pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, le rectorat m'informe que comme je n'avais pas 11 ans d'ancienneté, je ne pouvais pas prétendre postuler à un poste de langue étrangère. Et j'étais tellement dégoûtée que j'ai démissionné carrément d'éducation nationale. Voilà. Ce qui est, paraît-il, assez rare. Peu de gens démissionnent de l'éducation nationale. Donc c'est déjà un de mes hauts faits de résistance. Voilà. À la bien-pensance familiale Oui, à l'éducation nationale, voilà. Mmh. Mais en fait, en tant que marionnettiste, c'était un piège parce que le marionnettiste est souvent lié à l'éducation nationale, puisque quand on fait des spectacles pour enfants, normalement, ils sont aussi présentés à des scolaires, s'ils sont dignes de cela. Et c'est pour ça que j'avais décidé, dès mes débuts de marionnettiste, de ne jamais faire de spectacle pour enfants, pour ne pas retourner dans un établissement scolaire.
D'accord, d'où la marionnette pour adultes.
D'où la marionnette pour adultes et aussi l'appétit de littérature. C'est-à-dire que la marionnette est un art mineur, bien que les marionnettistes aient la prétention de gagner des galons, mais là, depuis 50 ans, ça se fait un peu attendre. Je crois que c'est bien de rester un art mineur, c'est bien de rester quelque chose de pernicieux, d'un petit peu secondaire, parce que je trouve que dans la littérature, il manque des gens pour monter les textes secondaires des grands auteurs ou les auteurs secondaires des grandes époques. C'est-à-dire des choses que finalement il faut aller chercher dans les bibliothèques, ou alors des auteurs actuels que personne ne connaît encore. Et la marionnette devrait être l'outil de ça. Très bien. Voilà.
Ce que tu as fait avec la compagnie beaucoup.
Ce que j'ai fait avec pas mal de succès que je dirais dans les années 2010-2012, oui, ou les années 2000, parce que à partir d'un certain moment, il y a eu une idée qu'il fallait faire des choses populaires, donc faciles à communiquer. Et dans les directions de théâtre, souvent, si on présentait un auteur, comme par exemple Christian Dietrich Grabe, qui a écrit des trucs très drôles au moment d'un peu après Goethe, en Allemagne, il y a des auteurs ou des dissidents russes qui ont un humour fantastique, ces auteurs ou ces écrits sont difficiles à présenter, à expliquer aux gens. Pour leur date, tout ça, il faut les resituer historiquement. Et c'est compliqué, et du coup, on pense que ça n'est pas populaire. Ce qui me contrarie assez, parce que je trouve que c'est finalement mépriser la culture populaire. Mmh. Je veux dire que Jean Vilar, tous les grands apôtres de la culture populaire, pensaient qu'il fallait que les grands textes, justement les grands auteurs, les grands moments de littérature, et même les petits moments de littérature, soient à disposition de tous les publics. Et en fait, le fait de vouloir faire des choses faciles, sympathiques, déjà référencées, déjà un peu dans une sorte de mémoire collective récente qu'on reformate, eh bien, ça a un petit peu bloqué mon élan. Et surtout, je me suis aperçue que de ce fait, comme personne ne montait plus de classiques. Finalement, être un peu original, c'était monter des classiques. Par exemple, il y a 3 ans, au festival de Charleville-Mézières, le dernier auquel nous avons participé, avant le décès de Jean Sclavis, nous avons monté un Hamlet, mm-hmm. hein, de Shakespeare. Et bien sûr, 90 spectacles présentés, créations, nous étions le seul spectacle du répertoire théâtral. Tout le reste, c'est les gens qui avaient écrit leurs textes, c'était des réflexions sociétales sur l'immigration, les violences faites aux femmes, des choses du... un petit peu le journal de 20 heures. Et finalement, les grands textes classiques qui permettraient d'apprécier d'ailleurs les nouveautés et d'avoir des références, des pierres de touche, on ne les voit plus beaucoup dans les programmations théâtrales. C'est jugé ringard. Mmh. Donc j'ai pris le risque, il y a quelques années, d'assumer le passé. D'assumer le passé. Et j'ai même tellement assumé le passé que j'ai eu le culot de monter Pierre Bellemare.
Oui.
Parce que Pierre Bellemare a publié une 60aine de livres. Il ne les a pas tous écrits lui-même, il avait des gens qui écrivaient avec lui, mais il avait surtout un vrai secrétariat qui réunissait des faits divers dans le monde entier. Un secrétariat multilingue, qui parlait l'anglais bien sûr, mais aussi des langues orientales, l'allemand, enfin. Et sur les 60 livres, j'ai pas lu les 60, mais j'en ai bien lu 40, il y a des faits divers qu'on ne pourrait pas inventer et qui sont des sujets comme on les aime dans la littérature, d'ailleurs des sujets bien bouclés, des histoires avec des personnages, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça a été l'occasion de jouer des scènes très très amusantes. Je pourrais en raconter pendant des heures. Et toutes celles qu'on a abandonnées, toutes celles qu'on n'a pas pu monter, parce que c'était trop compliqué de les monter, je les ai encore en fichier, en regret, et je mourrais sans les avoir montées.
Et c'était monté avec quelle marionnette, celle-là ?
Et toutes sortes de marionnettes, parce que le spectacle, s'il y avait besoin du sol, on montait avec des marionnettes à fil qui ont des pieds. Mais si c'était des choses très vives et à raconter, par exemple, je vais vous raconter quand même une des histoires de Pierre Bellemare. C'était un tout petit entrefilet de journal. Ce sont des femmes au Portugal qui ont reçu du ministère de la Santé une feuille leur indiquant qu'elles devaient se mettre tel jour à leur balcon et à leur fenêtre les seins nus parce qu'on faisait les mammographies par satellite. Et elles l'ont fait. Donc là, il n'y avait pas besoin de pieds à ces marionnettes. Il fallait surtout leur faire de très beaux seins. Et des gros, des petits, enfin bon, on en avait trois. Et là, comme c'était juste un petit entrefilet de journal, donc il fallait inventer un dialogue entre ces femmes. Et là, pour bien finir l'histoire, parce que moi j'aime l'histoire bien bouclée, j'ai imaginé qu'en fait l'imposteur qui avait usurpé le papier en tête du ministère de la Santé, c'était le mari de l'une d'entre elles. Mmh. Elle s'en apercevait au téléphone. Voilà.
D'accord.
Voilà le genre d'histoire. Mais il y a des histoires extraordinaires dans Pierre Bellemare. Il y a l'histoire, par exemple, d'un pauvre à Naples. Parce que Pierre Bellemare, quand il avait du temps libre, il travaillait beaucoup, mais de temps en temps, il était un peu touriste et il aimait faire du bateau. Et il allait jusqu'à Naples avec sa femme. Et c'est pour ça que l'histoire napolitaine, il y en a quelques-unes dans ses livres. Et un pauvre à Naples, avec son chien, trouve des côtes de porc dans les poubelles des restaurants. Et il a l'idée de les premières côtes de porc, une ou deux, qu'il trouve comme ça. Il les fait bouillir avec un peu de cristaux de soude, vous savez, et puis il les dépiote bien. Et il les brique, il les cire, il les patine. Il trouve une jolie boîte, il les met et il va dans les quartiers aristocratiques de Naples et il les vend comme reste du corps de Mussolini. Et puis ça marche, on lui achète ses côtes de porc dans la boîte. Comme reste du corps de Mussolini, très très cher. Donc il continue, mais un jour, l'association de nostalgiques de Mussolini se réunit, et puis il y en a un qui commence à dire « Ah, vous savez, j'ai eu l'occasion d'acheter un reste du corps de Mussolini, vous savez, parce qu'il y a eu toute une histoire sur le corps de Mussolini, vous savez, qui a été confié à une institution religieuse pour pas qu'on en fasse un martyr. Enfin, il a disparu à un moment donné, le corps de Mussolini, on ne sait pas où il a été. Enfin, il y a tout un mystère, Umberto Eco en parle d'ailleurs. » Donc, l'un d'entre eux commence à dire « Ah, mais moi aussi, j'en ai acheté, et moi aussi. » Finalement, quand ils comptent le nombre de côtes de Mussolini qu'ils avaient achetées, il y en avait largement plus que 24, je ne sais pas combien. Les côtes flottantes, ça ne doit pas faire des restes très intéressants dans une boîte, mais le nombre de côtes dépassait largement ce que Mussolini avait pu avoir, même en étant un surhomme. Voilà.
Et c'était quelle période, Pierre Bellemare ?
Pierre Bellemare, mais on l'a monté récemment. Ça nous a valu une déconsidération. On l'a joué à Privas, d'ailleurs, ce spectacle. Mais dans les milieux culturels, j'ai été très déconsidérée d'avoir monté Pierre Bellemare. À vrai dire, c'était plusieurs histoires de Pierre Bellemare et ça a été un spectacle très difficile à jouer parce que forcément, il fallait changer très vite les décors, beaucoup de personnages différents, des grands, des petits. Enfin bon, c'est un spectacle techniquement. Et il est vrai que maintenant, avec le recul, dans ma carrière, je me rends compte que quelquefois, on a eu les yeux plus grands que le ventre et on s'est lancé dans des spectacles ambitieux qui ne correspondaient pas aux moyens qu'on avait. Parmi les marionnettistes, on a eu beaucoup de moyens pour des marionnettistes, mais qui sont peanuts, qui, rien du tout en comparaison des subventions que peut avoir le théâtre, par exemple, ou la musique. Les mécénats pour la musique. Et en fait, manquer de moyens, c'est manquer de temps pour répéter, notamment. Et manquer aussi, par exemple, d'une personne de plus dans la distribution qui soit un accessoiriste derrière. Vous voyez, pour régler les problèmes techniques, attraper les marionnettes, les placer, tendre une autre marionnette à un acteur qui doit se dépêcher entre deux personnages. Parce que vous savez, les marionnettistes, on a une cuisine très particulière puisqu'on fait toujours plein de personnages. On n'est pas comme les Japonais. Hein. Les Japonais, ils sont quelquefois quatre pour manipuler une seule marionnette. Hein, il y a le maître, puis il y a la main gauche. Les pieds, enfin bon, ils sont nombreux, alors que nous, c'est le contraire, on est tout seul pour quatre marionnettes, quelquefois, voire plus. Donc en plus, il faut avoir du temps pour bien calculer où on les met en attente quand elles doivent seulement regarder quelque chose ou leur présence. Donc toute cette cuisine-là, il faut du temps, il faut les moyens, il faut de très bons techniciens qui bricolent des choses compliquées. Et je me rends compte que là, il y a très peu de marionnettistes qui ont vraiment eu les moyens d'ambition sur les plateaux de théâtre. C'est comme ça, par exemple, que je me suis lancée une année dans le Vicomte pourfendu d'Italo Calvino. Je dis ça parce que maintenant, ces marionnettes vont partir dans un grand musée à Milan. Donc, au moins, elles iront dans un musée. Mmh. Et c'était un faux bon sujet. C'est-à-dire qu'il y a des livres. Quand on les lit, on imagine tout de suite des images, des paysages, des personnages, des situations extraordinaires. Et on se dit, oh, quel super spectacle ça ferait. C'est en général, les enseignants ont un petit peu cette réaction en général d'ailleurs. Quand ils nous demandent d'intervenir dans les classes pour faire quelque chose avec les enfants, ils ont l'impression qu'on va être la Metro-Goldwyn-Mayer, vous voyez, ou Walt Disney. C'est-à-dire qu'on... Or, en marionnette, on peut faire très peu de choses, en réalité. La marionnette n'attrape pas, et c'est difficile. Et le Vicomte pourfendu, ça fait partie d'une trilogie qu'a écrite Italo Calvino, il y a une trentaine d'années, c'est un de ses chefs-d'œuvre. C'est l'histoire d'un vicomte fendu par un boulet de canon turc, et sa bonne moitié rentre en premier au village, puis sa mauvaise moitié. Et c'est le conflit entre les deux moitiés de vicomtes dans le village, amoureux de la bergère Pamela, qui est l'histoire du roman. Donc c'est un très beau roman, mais enfin, c'est une chronique plutôt, c'est pas un très long roman. Et c'était très compliqué, et je suis pas sûre que ce soit ce que j'ai fait de mieux. Voilà.
Et Olivier de Serres ?
Ah, Olivier de Serres, 1545 pages. Dans l'édition, 1545 pages. Ça, c'est une passion. C'est une de mes dernières passions, Olivier de Serres. Alors, Olivier de Serres, j'ai renoncé à faire un spectacle sur Olivier de Serres. Pour son quadricentenaire, qui était en 2019, mais que l'Ardèche a célébré le plus dignement possible, mais encore pas assez à mon goût. Oh. J'aurais aimé qu'on le célèbre encore plus. À Villeneuve-Loubert, il y a eu un spectacle, un peu rétrospectif forcément. Il faut reconstituer comment les gens vivaient à l'époque d'Olivier de Serres, ce qui est assez passionnant. Mmh. Et ce qui est très bien écrit dans tout son livre. Par exemple, non seulement il y a des conseils d'agriculture connus, enfin célèbres, mais il y a tout un chapitre de soins hygiéniques qui n'est pas son chapitre le plus personnel, parce que souvent il a un peu pioché dans d'autres ouvrages, mais quand même, par exemple, comment on se lave les dents au temps d'Olivier de Serres. Il n'y a pas de brosse à dents. Mmh. Alors, on se frotte les dents avec un tissu un peu rugueux, avec des poudres, et on se rince la bouche avec du vin blanc pour éliminer le limon de la nuit, dit-il le matin. C'est joli. Ça veut dire qu'il était un peu pâteux le matin. Et du coup, il prend soin de sa bouche, il a une hygiène buccale, pour sauver ce qu'il appelle ses tant précieux instruments, oui, que sont les dents. Et c'est très joli. Et quand on lit Olivier de Serres, on a l'impression de lire Montaigne. Seulement, ça fait 1545 pages. Donc, j'en ai fait un petit livret où j'ai pris ce qui, moi, dans Olivier de Serres, m'intéressait le plus. Mmh. Et j'ai laissé les connaissances sérieuses d'agronomie, d'écologie, d'environnement pour les spécialistes, mais j'y ai pris tout ce qui m'amusait sur la mentalité de l'époque, sur la façon dont Olivier de Serres vivait auprès d'elle, sa maisonnée, et j'ai fait 12 marionnettes. En fait, ce n'est pas des marionnettes, ce sont des personnages articulés qu'on peut mettre dans des positions comme pour le dessin animé. Et on est allé les mettre en Ardèche dans des endroits, pour les photographier. Par exemple, à Castanea, à Joyeuse, où il y a une magnifique armoire dans un grand, grand châtaignier creusé, on est allé mettre Madame Olivier de Serres, sa femme, en train de ranger des draps, des piles, avec une servante. On a fait tout au domaine de Cousignac, qui est un merveilleux domaine viticole. C'est là où qui élève son vin, souvent avec de la musique du Quatuor de Bussy, dans ce domaine viticole. On est allé photographier des ouvriers d'Olivier de Serres, des journaliers d'Olivier de Serres, dans les vignes, ou au bord d'une petite canalisation, et dans une petite chapelle aussi. Enfin bref, on a fait une quantité de photos avec deux photographes professionnels, Frédéric Leclou et Anne-Laure Ménage, qui ont déjà travaillé souvent pour le département aussi. Et c'est une expo photo en même temps qui accompagne les marionnettes. Voilà. Et ces marionnettes, eh bien, j'ai envie de les donner à l'Ardèche et j'ai pensé que le mieux était de proposer, pour l'instant j'ai proposé à la Chambre d'agriculture de les recevoir, mais je n'ai pas de réponse pour l'instant. Donc j'attends la réponse de la Chambre d'agriculture. Et si la Chambre d'agriculture ne veut pas se mettre des marionnettes sur le dos, c'est vrai que c'est une grosse responsabilité. Et j'aviserai comment les laisser à l'Ardèche. Parce que j'ai donc fait beaucoup de marionnettes dans ma vie depuis 1975. Et en fait, j'essaye maintenant de les répartir dans un endroit pertinent. Et tant que je ne trouve pas l'endroit pertinent, pour l'instant, elles sont stockées et on essaye de les préserver au mieux. Voilà.
Olivier de Serres en Ardèche, ce serait pas mal.
Olivier de Serres en Ardèche, c'est bien. Surtout que, à l'occasion de ce travail, on a travaillé sur le tissu pauvre. Puisque quand on lit Olivier de Serres, on se dit, mais le domaine du Pradel, ça devait être vraiment, en même temps, un mini endroit artisanal ou industriel, puisque on achetait le moins possible. Quand on voulait des chaussures, c'était la peau des chèvres du domaine, et un cordonnier venait faire les chaussures pour tout le monde. À propos de chaussures, c'était vraiment souvent le salaire d'une année pour un ouvrier. Quand on avait travaillé une année de la Saint-Michel à la Saint-Michel, on recevait une chemise, des chaussures, quelquefois un chapeau, et très peu d'argent, en fait, très peu ou pas d'argent, puisqu'on était logé, nourri.
Et c'était tout consigné.
Mais il ne faut pas imaginer que Olivier de Serres était un espèce de sale patron qui exploitait les ouvriers et tout. Il était aussi pauvre que en tant que petit noble de province, même avec une propriété le mieux gérée possible. À un moment donné, pour payer un journalier qui s'en va, il n'a tellement pas d'argent que dans le dernier livre de raison qu'on a de lui, le livre de raison, c'est son livre de compte, oui. Eh bien, il fait cadeau, donne ses chapeaux. Mais un chapeau, c'est aussi une pièce de vêtement très importante. Autrefois, personne ne sortait sans un chapeau. C'était des chapeaux de feutre qui protégeaient de la pluie, qui protégeaient d'un tas de choses, du soleil. Et le chapeau était une pièce importante. Donc Olivier de Serres n'a pas d'argent pour payer en liquide son journalier, mais pour compléter ce qu'il doit lui donner, il rajoute son propre chapeau. Et ce qui prouve qu'ils étaient fauchés. Quand même, tout le temps. Ou que l'argent liquide. Alors, en même temps, c'est un domaine où on mangeait à sa faim.
Oui.
Hein, alors, on sait par exemple qu'à la Gorse, à la même époque, il y a eu une telle famine que les gens ont mangé des fougères, ils sont tous morts dans le village. Il y a des anecdotes ardéchoises comme ça, terribles. Autant des guerres de religion. Parce qu'en plus, quand il y avait des guerres, les champs étaient ravagés. En fait, il y a des histoires horribles. Il faudrait relire ça davantage. Parce qu'on s'aperçoit que, à part des gens comme Olivier de Serres, qui ont essayé d'être relativement des gens de paix, puisque lui-même s'était marié, dans le culte catholique, bien que protestant. Et sa femme était d'une famille assez noble, mais catholique. À Bourg-Saint-Andéol, ils se sont mariés. Et en fait, si je ne me trompe pas, peut-être que des spécialistes m'entendent et me protesteront vigoureusement sur Facebook.
Au moins.
Et en fait, quand on lit cette époque où on voit que les protestants, les catholiques, et je te défonce la porte de ton église, et pour me venger, je vais dans le temple, et je fais ceci et cela, et je tue un tel, etc. Mais on devrait encore se raconter ces histoires parce que ça serait faire la preuve de la nécessité de la laïcité. L'apologie de la nécessité quand on se raconte les guerres de religion de cette époque-là. Surtout qu'on n'y revienne pas.
Surtout.
Voilà. Donc, Olivier de Serres est très important. Je pense qu'il y a toutes sortes de choses. Il y a des choses très amusantes dans Olivier de Serres. Et il n'est pas du tout austère. Je pense que, bien que protestant, étant donné l'attention qu'il porte aux bonnes choses, aux bons produits, aux bons raisins, aux bons vins, à bien élever les animaux pour qu'ils soient, qu'ils aient du bien-être et qu'ils soient bons à manger. Je suis désolée pour les véganes. On se rend compte qu'il a un côté épicurien, qui normalement n'est pas associé au protestantisme. Mais qui sait ? Donc c'est ce côté souriant d'Olivier de Serres que j'ai eu envie de souligner. Et j'ai appelé le petit livret que j'ai écrit « Olivier de Serres, regard sur Olivier de Serres souriant ». Et par exemple, il raconte comment déboucher une canalisation. Alors comment déboucher une canalisation qui à l'époque c'est des tuyaux de bois ou de céramique. Il y a des regards de temps en temps pour pouvoir, parce qu'ils ne sont pas très longs, ils se raccordent, il devait y avoir pas mal de fuites quand même. Mais il faut attacher une ficelle à la queue d'un gros rat, et on lance le rat dans la canalisation, pauvre rat, et le rat qui veut s'enfuir et bouger, il gratte, et s'il y a des saletés au milieu de la canalisation, le rat en viendrait à bout. Alors, quand je lis ça, je me dis, il s'est amusé en écrivant ça quand même, c'est pas possible. Parce que l'idée d'attacher une ficelle à la queue d'un gros rat, déjà faut que quelqu'un tienne bien le rat, sans doute dans une grosse toile, pour pas se faire mordre, parce que ça mord les rats. Et après, faut vraiment nouer la ficelle, pauvre queue du... pour que ça ne se détache pas, le temps que le rat aille creuser dans la canalisation. Vous voyez le genre d'histoire. Mais il y a d'autres choses très très jolies, par exemple, pour suivre un essaim d'abeilles, vous attrapez des abeilles, sans vous faire piquer, qui sont dans la forêt, et vous les mettez dans un petit roseau, enfermé, et il y a un petit trou, que vous bouchez avec votre pouce, sans vous faire piquer sans doute. Je ne sais pas s'il a vraiment vérifié le conseil qu'il donnait. Mais bon, il raconte ça, et vous libérez une abeille après l'autre. Elle va forcément se diriger vers l'essaim. Donc on va la suivre, mais au bout d'un moment, on va la perdre de vue. Donc on va en libérer une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et... il y a des chances qu'on arrive à l'essaim qui est allé se suspendre quelque part. Voilà. Et il faut partir d'un point d'eau où les abeilles viennent boire.
Cet olivier était définitivement artéchois.
Mais c'était très très joli. Mais il y avait des points d'eau en plus, vous vous rendez compte ?
Voilà. Merci beaucoup Émilie pour tout ça. Et notre onde curieuse d'aujourd'hui est terminée.
Bon, eh bien...
merci beaucoup.
Prochain épisode.
Prochain épisode, voilà.
Voilà, je tiens à signaler que quand une abeille vous pique, elle meurt. Je vous signale que la journée ne s'arrête pas maintenant sur Fréquence 7 à 13h et à 16h. Ce seront les paroles de citoyennes et de citoyens. À 15h, naturellement, le Telex, votre Telex. À 16h15, Merveille d'Ardèche. À 17h, eh bien, ça sera la rediffusion naturellement de cette onde curieuse. Vous pourrez donc retrouver Émilie Valentin, Marie. Et puis à 19h, c'est Julien Éclectrique. C'est la playlist des musiques actuelles, des musiques qui sortent indépendamment. Voilà, c'est à entendre à 19h et à 20h. L'extraordinaire, la merveilleuse playlist de mon pote, c'est Valou, tous les jeudis. N'en manquez pas une. Voilà, eh bien, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Je remercie Sylvain, qui a été obligé de me supporter aujourd'hui. C'est une preuve de plus de son courage extraordinaire. Bonne journée.